Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. En pleine débâcle de juin 1940, cette apostrophe du général de Gaulle cantonne la bataille dans son isolement temporel et géographique pour inscrire ailleurs les vrais enjeux d'un combat. Cependant, la bataille n'est pas seulement un événement anecdotique, elle mérite qu'on s'y intéresse de façon globale. C'est le sujet d'histoire qui a été étudié cette année par les officiers stagiaires de l'école de guerre avec le soutien de Georges-Henri Soutou, spécialiste des relations internationales et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous allons bientôt plonger au cœur de la mêlée en racontant cinq batailles qui ont fait date, de la République romaine à Dien Bien Phu. Mais auparavant, il a paru important d'expliquer l'intérêt de cette démarche. Je suis donc en compagnie de Georges-Henri Soutou. Bonjour.
Bonjour, chère madame.
Mais également du colonel Faudet, directeur du département Histoire, Géopolitique et Stratégie de l'École de Guerre. Bonjour.
Bonjour, madame.
Et puis, nous avons pour finir Isabelle Davion, maîtresse de conférence à la Sorbonne, qui a coordonné ses travaux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Georges-Henri Soutou, nous allons commencer avec vous. Qu'est-ce qu'une bataille ?
La bataille, c'est le point culminant d'une guerre. Traditionnellement, parce que les notions ont évolué, nous allons voir ça. La bataille, c'est une tragédie classique. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Événement auquel on ajoute souvent un aspect affectif essentiel. Verdun ou Stalingrad, ça peut pas simplement une bataille pour les historiens, ça engage la mémoire et la vie de peuple entier. Bon. Alors, cette notion était un peu perdue de vue parce que depuis les années 70-80, on connaissait surtout des opérations extérieures, des missions. On parlait moins volontiers de bataille. Après les souvenirs de Dien Bien Phu, la dernière grande bataille peut-être en 54 pour les Français, perdue, bon, disons-le, on avait un peu évacué cette notion. Elle a été rappelée depuis 2020 à peu près par tous les grands chefs successifs des armées françaises, soulignant le retour à ce qu'on appelle la haute intensité. C'est le terme militaire.
Qu'est-ce que c'est, la haute intensité ?
Eh bien, c'est une bataille qui n'est plus une simple opération de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre, c'est une vraie bataille avec utilisation massive d'armement, de munitions, etc., qui peut s'étendre sur la durée, éventuellement pendant des semaines, voire des mois, qui fait appel à toutes les armes et à toutes les armées, c'est-à-dire artillerie, aviation, cas échéant, marine, etc. La haute intensité, la façon moderne de dire le retour à la vraie guerre, qu'on avait pensé, espéré, oublié en Europe depuis 1945. Il suffit de regarder les chaînes de télévision pour voir qu'en Ukraine, elle est revenue. Voilà ce qu'est la haute intensité.
Alors c'est ce sujet à la fois historique, mais nous le comprenons aussi, d'actualité qui a été choisi par les officiers stagiaires de l'école de guerre. Quelle est l'originalité de cette formation à l'école de guerre, colonel Faudet ?
Alors c'est une très belle occasion de vous présenter un modèle qui est extrêmement original. L'école de guerre finalement a une seule mission qui fait sa particularité, c'est de préparer les officiers supérieurs qui ont entre 35 et 45 ans à commander, concevoir et commander les opérations, tout en les préparant à de hautes fonctions. Ils vont devenir à court terme les grands chefs militaires de demain, souvent au contact du niveau politico-militaire. Donc c'est ce en même temps pédagogique qui est extrêmement intéressant. Alors l'école de guerre, je ne vais pas vous raconter son histoire au complet, mais elle est le pur produit de la défaite de 1870. Et nous nous sommes inspirés pour cela du modèle prussien, qui lui-même a été créé après la défaite d'Iéna. Donc vous voyez, la défaite est féconde. Alors l'école a changé trois fois de nom. Elle est devenue École supérieure de guerre en 1876, Collège interarmées de défense en 1993. Et en 2011, on a repris cette notion de guerre. La défense n'est pas la guerre. Et à un moment où le péril qu'évoquait le professeur Soutou tout à l'heure était en train de croître, eh bien, on n'a plus eu de crainte à employer ce terme de guerre. Vous voyez, donc finalement, tout ça vient à l'appui de ce que le professeur évoquait. Alors, tout d'abord, nous sommes une école de guerre, c'est important de le dire. Nous sommes une grande école qui est du niveau 8, c'est-à-dire post-master 2. On ne délivre pas de diplôme, ce qui nous donne aussi une très grande liberté académique. C'est une école de perfectionnement, de formation à mi-carrière, ce n'est pas une école de formation initiale. Et puis, dernier point, c'est un modèle envié à l'international, Je pense que nous avons à nous enrichir mutuellement de nos différences, mais nous avons aussi quelques, sans avoir des recettes, quelques principes pédagogiques dont je vous parlerai tout à l'heure, qui peuvent être intéressants d'étudier.
Vous parliez de l'international et vous avez des stagiaires étrangers. Nous entendrons dans la série un Britannique nous parler de la bataille de Jutland. Oui. Dans le cadre de cette formation qui concerne des hommes et des femmes de métier, les futurs hauts gradés de l'armée française, quelle est la place de l'histoire ?
Alors, je sais que je n'ai pas répondu à votre question initiale, mais je vais le faire tout de suite. Alors, une promotion, c'est en gros 320 stagiaires. 200 sont français, de toutes les armées et services, terre, air, mer, commissariat, des gendarmes aussi. 90 à la louche, officiers internationaux d'une soixantaine de nationalités. Donc vous voyez, je vous parlais de richesse tout à l'heure, la richesse vient aussi de ces stagiaires-là, et une trentaine d'auditeurs libres. Alors l'histoire, elle a toute sa place. Elle a toute sa place, non pas pour donner des recettes, souvent anachroniques ou décalées, mais pour venir nourrir une réflexion géopolitique et stratégique. Donc, grâce au comité histoire que Isabelle Davion nous fait l'honneur de mentorer, de tutorer, on voit bien que l'histoire a toute son utilité. Elle est absolument centrale de cette première phase de la scolarité qui s'appelle « Comprendre le monde ». C'est géopolitique, stratégie, histoire, et les trois se nourrissent mutuellement.
Alors, en histoire, le sujet de l'année, c'était donc la bataille, pensée comme un fait d'histoire globale. Qu'est-ce que ça signifie ? Dans quelle optique avez-vous étudié la bataille, Isabelle Davion ?
Alors d'abord, il me semble important de préciser que ce sujet a été choisi par les officiers stagiaires eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons commencé l'année à la rentrée par un brainstorming sur les différentes possibilités de réflexion. Parce que l'idée, c'est bien entendu de creuser une culture. C'est aussi de donner une grammaire réflexive, une façon d'appréhender les enjeux contemporains. Et puis, comme le colonel le précisait, ce sont quand même des hommes et des femmes qui sont appelés à avoir des carrières internationales assez haut niveau. C'est important aussi de pouvoir arriver dans un pays en ayant l'idée de ce qu'est la culture historique de ce pays. Voilà, quels peuvent être les enjeux pour aborder les problèmes les plus actuels. Donc, le thème qui a été choisi, c'est la bataille, effectivement, vous le disiez, comme fait d'histoire totale. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est-à-dire, on a une crise. La bataille, donc une crise veut dire que par définition elle se situe sur un temps court, mais qui agit comme un révélateur d'évolution sur le temps long. C'est vraiment l'idée de penser la bataille comme un événement carrefour. Alors, par exemple, pour vos auditeurs, je pense que l'événement carrefour par excellence et connu de tous, ce serait l'affaire Dreyfus, hein, qui permet de révéler ce qu'est l'histoire militaire de la France depuis 1870, ce qu'est l'histoire diplomatique européenne, ce qu'est l'histoire politique de la France avec la naissance de l'ultranationalisme et la flambée de l'antisémitisme, et l'histoire culturelle avec la naissance du mouvement intellectuel. Vous voyez, avec une crise, vous, par capillarité, en fait, vous irriguez l'histoire vraiment à une très très grande échelle. Alors, c'est ce qui nous a intéressés avec les batailles. Et à partir de là, il y a 5 axes réflexifs qui ont été établis. Et chacun étant associé à une bataille. Vous allez en avoir des exemples dans la série qui suit.
C'est-à-dire que la bataille n'est pas simplement racontée d'un point de vue tactique. C'est vraiment une autre optique que vous avez choisie de voir ce qu'elle peut révéler sur un temps très court, mais aussi sur un temps plus long.
Oui, alors bon, raconter la bataille sur un plan tactique, c'est quand même nécessaire. Alors moi, je fais de l'histoire, je crois aux dates, je le dis.
Et alors, et aux chiffres.
C'est-à-dire que cette histoire bataille qu'on a cru condamner, il y a un moment donné, en fait, elle est revenue. Et d'ailleurs, lorsque nous avons réfléchi à ce thème de bataille, nous ne savions pas cet automne à quel point c'est un sujet qui serait d'une actualité aussi tragique, pour reprendre un terme du professeur Soutou. Mais donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait les bottes dans la boue et qu'on sache ce qui se passe. Sinon, c'est impossible de comprendre. Mais au-delà de cela, une fois qu'on a compté les baïonnettes...
Le calibre des canons.
Voilà, c'est ça. Eh bien, on en tire une information.
Alors, les 5 batailles qui ont été étudiées appartiennent pour la plupart au 19e au 20e siècle. Mais il y en a une qui remonte à l'Antiquité romaine. Qu'est-ce que apporte un exemple aussi ancien pour un officier stagiaire d'aujourd'hui ?
Il y a toujours des enseignements à tirer, de, alors pas forcément sur un plan tactique, parce que là, effectivement, bon, on ne croit pas, comme le disait le colonel, vraiment aux recettes de l'histoire, ce serait trop facile. On est tous à la recherche de la bataille gagnée à tous les coups. Hein, les états-majors ont longtemps cru que c'était celle de Cannes, mais bon, finalement, ça n'est pas le cas. Mais malgré tout, il y a toujours des enseignements à tirer. Ainsi, avec le comité d'histoire, nous sommes allés sur le site d'Alésia. Et puis, nous avons réfléchi à différents aspects de cette bataille, non pas dans l'idée de refaire un jour Alésia, mais parce que vous aviez des informations qui étaient intéressantes. Je dirais, ne serait-ce que, cette opération de communication militaire la plus réussie de tous les temps, qui est l'écriture de la guerre des Gaules. Alors, j'espère avoir un de mes officiers stagiaires qui écriront la future guerre des Gaules.
Alors, colonel Faudet, vous vouliez intervenir?
Alors oui, juste trois remarques par rapport à ce que le professeur a dit et puis Isabelle Davion à l'instant. Tout d'abord, le niveau tactique n'est pas le niveau de l'école de guerre. C'est le niveau précédent qui est étudié. Nous, on s'intéresse vraiment au niveau opératif et au niveau stratégique. Ça, c'est le premier point. Malgré tout, comme l'a dit Isabelle, il faut un moment parler du calibre des canons, de la largeur du char, du poids du char, parce qu'il faut qu'ils franchissent, qu'ils tirent. Bon, voilà. Deuxième point, des batailles qui seraient intéressantes à étudier, mais qui n'a pas été fait, c'est la bataille qui n'a pas été livrée, voire même qui a été gagnée avant même d'être livrée. Ça, c'est intéressant en creux. Ne pas avoir livré la bataille, c'est parce qu'on dissuade l'ennemi de la livrer. C'est un peu le principe d'Austerlitz, vous voyez. On a déjà gagné parce qu'on a rusé, on a fait preuve d'intelligence et pas seulement de biceps, si vous voulez. Troisième et dernier point, c'est qu'une notion qui est très chère au professeur Soutou, qui s'appelle la culture générale, ne doit pas s'arrêter au XIXe siècle. Tout ne commence pas au début du XIXe siècle. Donc, il est intéressant aussi d'aller voir dans l'Antiquité, comme Isabelle le disait, des choses intéressantes.
Isabelle Davion ?
Un exemple, mais peut-être dans le futur, je ne sais pas, de bataille qui n'a pas été livrée, ce sera peut-être Kiev.
Et oui.
Hein, on ne sait pas, peut-être que voilà, on reviendra dessus pour savoir pourquoi est-ce que l'armée russe s'est retirée. Mais alors, sur l'exemple de l'Antiquité que nous avons conservé avec le comité histoire, hein, c'est la bataille de Kar. Alors, Kar ou Karès, on ne sait pas, puisque évidemment, on n'a pas d'enregistrement de l'année 53 avant Jésus-Christ. Mais bon, l'oxymore est tellement tentant que parlons de la bataille de Karès. Mais elle nous a servi à réfléchir à la bataille comme fait d'intelligence, c'est-à-dire la bataille comme validation d'un système. Pourquoi est-ce qu'il y a victoire des Parthes ? Comment est-ce que les Parthes arrivent à mettre fin à l'invasion romaine de la Mésopotamie ? On voit bien que c'est un affrontement de deux modèles culturels de combat. Et bien sûr, avec quoi est-ce que cela résonne ? Mais avec tant de combats contemporains, et on pense notamment, à l'Afghanistan qui a été en surplomb de beaucoup de nos réflexions, mais comprendre les schémas de pensée de l'adversaire permet éventuellement d'anticiper son intervention.
Alors, professeur Soutou, sur l'Afghanistan, justement.
Attendez, avant, je voudrais revenir sur un point. La pensée occidentale privilégie traditionnellement la notion de bataille décisive. Et la bataille de Cannes, d'Hannibal, de 200, je ne sais pas combien avant Jésus-Christ, a servi de modèle au plan allemand, dit plan Schlieffen, en 1914. Comme chacun sait, ils sont plantés, parce qu'ils ont cru à la possibilité d'une victoire décisive. D'autres cultures stratégiques, en particulier la culture chinoise, raisonnent de façon tout à fait différente. C'est plutôt un jeu de go, un étouffement progressif qu'une bataille décisive, voyez-vous. Et ça, c'est une faiblesse de la pensée militaire occidentale. J'ai le plus grand respect pour nos maîtres allemands et prussiens, mais là, ils ont quand même leurs limites. C'est parce que ça a marché contre la France en 1870, ça a marché provisoirement contre la France en 1940, ils ont pensé que c'était gagné. Je fais le jeu de mots, voyez. Bon, non, malheureusement, c'était pas ça. Et il faut donc élargir la notion. Et si vous me permettez, je continue. Le 19e siècle, il est passionnant parce qu'il a vu, et le sommet, c'est 1914, le passage de la bataille qui était un épisode bref, 24 heures au plus, 48 heures. Puis après ça, on va boire un coup et on se repose. C'est normal quand même, c'est épouvantable une bataille. Bon, puis la bataille est devenue continue et elle s'est confondue avec la guerre. Et on ne peut plus vraiment distinguer. Bon, pourquoi ? Parce que l'industrie moderne a permis de nourrir une bataille permanente. Je prends un exemple pour faire me comprendre. L'offensive allemande à Verdun en 1916 a utilisé une quantité de munitions qui aurait rempli des trains à touche-touche les uns derrière les autres entre la Meuse, entre Verdun, et au-delà, à l'est de Berlin, sur plus de 1500 km de long, des trains à touche-touche. Voilà ce qui a été consommé par l'artillerie allemande à Verdun. Alors là, on change d'échelle. C'est la bataille, c'est la guerre. La guerre, c'est une longue bataille. Et le dernier exemple, c'est 91, la guerre du Golfe, avec un débauche de moyens. Enfin, l'armée française avait quand même pu engager à ce moment-là des effectifs dont elle rêverait aujourd'hui.
Dont la manœuvre est inspirée aussi de la bataille de Cannes.
Absolument, d'ailleurs, absolument. Avec une manœuvre à l'aile gauche du dispositif qui évoque tout à fait la bataille de Cannes. Bon, mais on pensait qu'après ça, on tournait la
C'était
page.
Fini.
On tournait la page. On pensait que les guerres seraient asymétriques à cause de la supériorité technique occidentale. On pensait que la guerre se ferait avec des armes de précision. Zéro mort, disait-on. Zéro mort pour soi, pas forcément pour l'adversaire, entendons-nous bien. Bon. Et les combats se dérouleraient dans le cadre de ce qu'on appelle des opérations extérieures. OPEX, c'est l'acronyme que l'on retient. Et on pensait au mode expéditionnaire. On envoie des expéditions, rétablir l'ordre, etc. Même si ces opérations peuvent être très coûteuses en vie humaine, avec parfois de grandes batailles, en fait. Souvent, c'est la vraie guerre, je tiens à le dire. Il y en a des témoignages. Simplement, on ne le claironne pas trop, parce que ça ne fait pas bien dans le discours officiel. Et magnifique exemple de ces illusions occidentales sur une longue durée, ça a été l'Afghanistan.
Mais oui, justement, je vais vous laisser développer, mais ce qui est frappant quand on écoute les officiers stagiaires, ils parlent des batailles du passé, ils les analysent, et puis à la fin, j'en ai été témoin, puisque je leur ai posé toujours en dernière question, aujourd'hui, quel lien faites-vous avec les batailles d'aujourd'hui? C'est toujours l'Afghanistan qui revient, on a l'impression que c'est un tournant dans la façon d'envisager la guerre.
Parce que c'est un traumatisme. D'abord, un traumatisme pour les militaires qui ont participé, parce que ça a été très dur, ça a été très long, dans un climat, disons, peu aimable, pour dire le moins, avec différentes stratégies successives dans le plus grand désordre. Je crois que le
colonel Foudet.
En fait, juste compléter ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. C'est certes un traumatisme, mais ce n'est pas que cela dans la mesure où ces officiers ont dû l'évoquer. C'est aussi une vraie période de transformation pour l'armée de terre. Une période de modernisation. Des efforts considérables ont été faits en termes d'équipement. La doctrine qu'évoquait le professeur Soutou à juste titre tout à l'heure a quand même bien évolué. On s'est retrouvé dans des situations très dures qui effectivement peuvent être traumatisantes, mais je pense qu'il ne faut pas le réduire qu'à ça, qui a été aussi un virage pour cette génération. Moi, ma première opération extérieure, c'est Sarajevo, en 1996. Eux, leur première opération extérieure, souvent, c'est l'Afghanistan. Et les théâtres, les OPEX, comme le disait le professeur, n'ont rien à voir. Donc, on est toujours marqué par sa première opération extérieure.
Alors, professeur Soutou.
Oui. Je vous rappelle que l'Afghanistan a toujours été, depuis la très haute antiquité, pour des raisons géographiques et géostratégiques, il suffit de contempler une carte, tout le monde s'est cassé les dents. Vous avez, dans les mémoires de Churchill, à la fin des années 1890, un récit de son temps dans la région, puisqu'il était en garnison au nord de l'Inde, et l'Afghanistan, c'est même les Anglais s'y sont cassés les dents. Bon,
Le
tombeau des empires, ah ouais, exactement. Alors, les Russes ont cru pouvoir intervenir pour rétablir leur situation politique à Kaboul en 1979. Leur arrivée massive, rapide, par parachutistes, d'avions, etc., a suscité à l'époque l'admiration des états-majors occidentaux. Ils disaient, on a fait très très bien. Simplement, après ça, ils sont enlisés. Ils sont repartis la queue basse en 1986 pour différentes raisons, en particulier parce qu'ils sont heurtés à une résistance afghane dont ils n'avaient pas mesuré au départ l'ampleur. Vous comprenez pourquoi j'annonce ça. Résistance équipée par les Américains d'armes intelligentes, portables à dos d'homme, les fameux Stinger qui continuent à être utilisés en Ukraine, qui ont permis de descendre un certain nombre d'avions et d'hélicoptères soviétiques. Puis après ça, les Occidentaux étaient très satisfaits, mais il y a eu un contre-effet, c'est que ça a été le foyer où est apparu le terrorisme d'Al-Qaïda, qui n'est pas compréhensible en dehors de la guerre en Afghanistan, parce que ces groupes ont été financés, aidés par l'Arabie Saoudite, par les États-Unis, dans la lutte contre l'Union soviétique. Mais à partir de là, le génie est sorti de sa bouteille, la créature a échappé à son créateur, d'où les attentats du 11 septembre, qui sont directement liés à ça, d'où l'intervention occidentale, les interventions occidentales en Afghanistan à partir de 2001, dont je ne vais pas faire le récit, mais qui se sont terminées, comme chacun sait, assez piteusement à l'automne 2021. Donc vraiment le tombeau des empires. Mais il y en a quoi, ce qui est intéressant, c'est que on a vu tout du long une absence, malgré tout, de stratégie globale. Je ne parle pas des progrès tactiques, mais la stratégie globale occidentale et l'idée que l'on pouvait s'abstraire de la bataille au nom du maintien de l'ordre, n'est-ce pas, et de la reconstruction de la société civile sur place, qui en soi est tout à fait compréhensible, mais ne s'appliquait pas au cas très complexe de l'Afghanistan. Ce qui fait que l'on est obligé de conclure que les OPEX et le modèle expéditionnaire ont montré leurs limites, que les moyens modernes, les hautes technologies n'éliminent pas la nécessité d'avoir des effectifs sur le terrain, boots on the ground, comme disent les Américains, des godillots sur le terrain, et les actions militaires les plus violentes, les plus cinétiques, comme disent les militaires. Ce qui fait qu'on assiste au retour de la haute intensité, avec des effectifs engagés importants, j'insiste là-dessus. L'un des problèmes des Russes en Ukraine, c'est qu'ils n'ont pas assez d'effectifs, semble-t-il. Je dis bien semble-t-il par prudence. Attendons la fin du film. Le retour de la bataille comme mode stratégique essentiel et permanent. Ce qui se passe maintenant en Ukraine peut être étudié beaucoup plus en fonction des opérations soviétiques ou allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le même terrain, exactement le même terrain, les mêmes noms de lieux, les mêmes types de manœuvres, le blindé, etc. Et la bataille, même si Dieu merci, elle n'est pas présente partout, toujours, bon, elle reste maintenant, malgré tout, on n'oubliera pas, comme un fond de scène menaçant. La possibilité toujours présente d'une escalade jusqu'à la j'ai pas dit au nucléaire, mais en tout cas la bataille de haute intensité, c'est déjà pas mal. La crise ukrainienne actuelle montre que, sans l'expression du tsar Nicolas Ier que j'aime beaucoup, sa majesté le canon, comme il disait, a retrouvé toute sa voix, n'est-ce pas ?
Dans l'actualité, on entend d'ailleurs parler de la bataille, si nous prenons l'exemple de Marioupol, c'est vraiment une expression, la bataille de Marioupol, qui revient presque tous les jours et présentée comme une bataille décisive. Est-ce le grand retour de la bataille ?
Alors là, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La bataille comme une réalité stratégique. Là, je me pose comme historien de relations internationales au regard assez froid. Bon, Marioupol, pardonnez-moi, mais c'est un épisode dans quelque chose qui est beaucoup plus important. Ce qui se passe en ce moment, c'est le fait que les offensives russes, qui devaient bloquer toutes les armées ukrainiennes dans le Donbass et les encercler, elles partaient d'abord très très au nord, ça a échoué. Ils ont ensuite essayé une pince plus petite, plus étroite, ça échoue. Ils en sont maintenant à une pince beaucoup plus étroite, du côté de noms de lieux difficiles à prononcer. Ils étaient partis sur des offensives de 300 km, ils en sont maintenant des offensives de 30 km de portée, parce que ça ne marche pas bien. Bon. Malgré tout, ce sont toujours des batailles de type très classique, voyez-vous, et une vraie bataille. À ne pas confondre avec la notion symbolique donnée volontiers par Kiev, c'est pas, et ses amis, à des événements évidemment qui sont très télévisuels, la bataille de Marioupol, enfin ça sonne très bien si vous me pardonnez cette expression, mais c'est plus pour les médias que pour les militaires.
Et ce n'est pas nouveau. Dans notre série, nous parlerons par exemple de la bataille de Borodino ou de la Moscova, selon les camps. Isabelle Davion, vous vouliez réagir, je crois, à ce que disait le professeur Soutou. Et puis, je rappelle à nos auditeurs aussi que vous travaillez particulièrement sur les sujets liés à l'Europe centrale et orientale.
Effectivement. Mais lorsque nous avons commencé à travailler sur ce dossier intitulé « Au cœur de la mêlée », donc on a eu à cœur de joindre chaque bataille à un axe problématique. Et effectivement, on a aussi vraiment eu le soin de relier ces questions-là d'histoire aux résonances actuelles. Et c'est là qu'est apparue comme un fil rouge cette question d'Afghanistan qui aurait pu en fait nourrir chacune de ces réflexions. Par exemple, vous parliez de Borodino ou de la Moscova qui est reliée à l'axe problématique de la question du récit national et du récit mémoriel. Bien entendu, cette guerre d'Afghanistan soulève la question du récit national qui peut en être fait. La question aussi de la victoire, justement, dont parlait le professeur Soutou à l'instant. C'est une question que nous nous étudions à travers la bataille du Jutland, dont vos auditeurs vont m'entendre parler. Et elle se pose pour l'Afghanistan, c'est-à-dire c'est la question des dividendes de la victoire de 2001-2004, parce que cette victoire, elle existe en 2004. Vous avez quand même les trois quarts de la population afghane qui vont voter pour les élections présidentielles. Si ça, ce n'est pas une victoire, hein. Mais la question de ces dividendes mis en perspective avec le retrait de l'automne 2021 pose la question de qui est vainqueur, qui est vaincu dans la guerre en Afghanistan. Bon, après, nous avons aussi étudié la guerre de Crimée du point de vue de la conduite des opérations en coalition. Et là aussi, hein, avec l'Afghanistan, on retrouve cette problématique de l'intervention en coalition au sein de l'OTAN, par exemple, et de l'interopérabilité qui est devenue encore plus une question d'actualité depuis qu'il y a la question de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN.
Colonel Foudet.
Alors, tout ce qui vient d'être dit est extrêmement intéressant, passionnant. Il y a une question que nous nous posons aussi tout au long de l'année, c'est qu'est-ce qu'une grande bataille ? On a parlé de bataille. À partir de quand on peut dire que c'est une grande bataille ? Sur le moment, au moment T, on peut le dire. Ça peut être une question de volume de force, mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi les conséquences stratégiques et politiques que cette bataille à quel que soit d'ailleurs le volume. Isabelle Davion connaît bien la bataille de Verdun, le professeur Soutou aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'étudier aussi la bataille après la bataille. Le narratif qui est évoqué là est absolument essentiel. Et il faut impérativement, je pense que nous y arrivons bien, que ces officiers aient aussi conscience des conséquences de la bataille. L'après-bataille est tout aussi intéressant à étudier que la bataille elle-même.
Alors peut-être pour finir, et je vous donnerai à chacun la parole, de la même façon qu'en histoire, on a parfois délaissé les grands personnages pour creuser l'aspect plus social, plus économique d'une période, on a l'impression que la bataille avait un peu été jetée aux oubliettes et qu'elle fait son grand retour. Et j'aimerais vous laisser chacun conclure par cet aspect-là. Peut-être professeur Soutou pour commencer.
C'est très bien. La bataille, même à l'arrière-plan, même si on ne débouche pas sur une bataille proprement dite, même comme menace, comme fond de scène menaçant, comme disent les Allemands, c'est une très bonne expression, reste un paroxysme fondateur. C'est un paroxysme. Ce n'est pas de débauche d'énergie, un paroxysme à l'issue toujours incertaine malgré tout. Bon, un paroxysme fondateur et structurant des opérations militaires, bien entendu, mais au-delà des relations internationales. Bien entendu, en temps de guerre, mais même en cas de grave crise internationale, parce qu'il y a les préparatifs de bataille, même quand elles n'ont pas eu lieu, finalement, comme on l'a évoqué. 1958, la crise du mur de Berlin, 1958. Pardonnez-moi, mais j'ai vu les préparatifs de la bataille du côté français. On a envoyé une division en Allemagne. Je l'ai vu défiler, pour des raisons personnelles, sur la voie ferrée de l'Est, le long de la Marne. Pendant 2 jours ininterrompus, toutes les 10 minutes, un convoi, fin août, le mur c'est 61 bras, et le même d'Américains, etc., ont préparé une bataille, également du côté soviétique, on le sait maintenant. Heureusement, elle n'a pas eu lieu. De même au moment de la crise de Cuba en 1962. Donc, même si heureusement ces batailles-là n'ont pas eu lieu, elles étaient préparées. Ça reste structurant. On pensait l'avoir un peu perdu de vue, mais ça revient ici. Je maintiens, tout ça se juge sur la durée, avec patience. Le problème de la tradition stratégique occidentale, on a l'impression que l'état-major apporte aux politiques une victoire clé en main. Maintenant, messieurs, nous, on a fait notre job, vous vous débrouillez. Mais comme l'a fort bien dit le colonel, c'est pas le cas. Et le problème commence à ce moment-là. Tout l'intérêt d'une partie essentielle de la formation de l'école de guerre, qui est d'apprendre aux officiers stagiaires à réaliser toutes les interfaces nécessaires entre le monde militaire, le monde civil, le monde industriel, le monde des industries d'armement, etc., pour arriver à une forme de symbiose que, visiblement, les Russes n'ont pas réussi à faire. Donc, on demande beaucoup à nos stagiaires, mais ils vont pouvoir éventuellement être attaché de défense dans un pays en crise, participer à l'élaboration d'une loi de programmation militaire, donner des conseils extrêmement utiles sur les projets d'armement, parce que ça ne se fait pas comme ça, hein. Bon, et ainsi de suite.
Colonel Foudet.
Alors, quelques mots en guise de conclusion. Tout d'abord, je voudrais remercier du fond du cœur l'Institut de France de nous accueillir. Parmi les 9 axes qui viennent structurer la modèle pédagogique de l'école de guerre. Il y a l'ouverture, il y a aussi penser autrement, et puis il y a la responsabilisation. Il y a aussi un terme qui est important, c'est la personnalisation. Et les comités, dont Isabelle Davion a la responsabilité du comité histoire, les comités en font partie. Mais la convention que nous avons signée avec l'Académie des sciences dernièrement, et vraiment je remercie l'Académie des sciences de son accueil, et puis la présence en notre sein du professeur Soutou, montre que cette ouverture d'esprit et cette capacité à penser autrement, de sortir des sentiers battus, d'éviter de répéter toujours les mêmes choses, en particulier l'Institut de France nous y aide, donc vraiment merci du fond du cœur. Alors je ne suis pas d'accord avec vous. La bataille n'a jamais été mise à la poubelle, jamais. Et je vais vous prendre deux exemples. Premier exemple, c'est que chaque année, tous les 2 décembre, nous fêtons, nous, Saint-Cyriens, Austerlitz. La victoire d'Austerlitz.
Le
2S. Le 2S, que vous connaissez bien. Autre exemple. Lorsqu'on commande un régiment, ce que j'ai eu la joie et l'honneur de faire pendant 2 ans, dans le bureau du chef de corps, il y a son drapeau et son étendard. Et qu'est-ce qu'on trouve sur le drapeau et l'étendard? Toutes les batailles auxquelles le régiment a participé. Et quand on rentre dans son bureau, première chose qu'on voit, c'est l'étendard ou le drapeau avec toutes les batailles. Donc, première chose, c'est que ça rend modeste. Voilà, on n'est qu'un chef de corps parmi tant d'autres. Mais surtout, une sacrée responsabilité. Parce que le jour où la bataille revient d'actualité, il va falloir être à l'auteur de nos anciens. Et c'est pour ça qu'on forme nos officiers à l'école de guerre.
Alors, les militaires n'ont pas oublié la bataille. C'était peut-être le cas du grand public. Je vous laisse donc conclure, Isabelle Davion.
Pour conclure sur ce retour de la bataille, je rebondirai sur le penser autrement que rappelait le colonel Faudet. Je crois que l'histoire, c'est une science vivante et donc elle s'enrichit des métissages des approches et que voilà, ce projet-là, au cœur de la mêlée, les récits qui suivent permettent de réconcilier l'école des annales et l'histoire bataille. C'est une très bonne chose.
Eh bien, un grand merci à tous les 3, professeur Soutou, Isabelle Davion et au colonel Faudet. Nous sommes donc maintenant impatients d'écouter la suite. Et donc, je vous rappelle que les officiers stagiaires de l'école de guerre ont préparé une série sur 5 batailles qui ont fait date. Nous aurons donc, pour commencer, la bataille de Carre, donc dans l'Antiquité avec la République romaine. Borodino, bataille de la Moscova dans le camp adverse, et puis Sébastopol en Crimée, Jutland, la grande bataille navale de la Première Guerre mondiale, et puis Dien Bien Phu. Donc le programme est bien dense. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.